buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens avec aujourd'hui la Grèce et ses retraités sous pression, l'accueil parfois indécent des réfugiés en Allemagne, la révolution 2.0 du sexe chez les jeunes, un hôtel peu commun en Serbie, mais tout de suite, tendez l'oreille. Une pétition étonnante au Royaume-Uni, mais qui pose une vraie question. Début juin, le site britannique 38 degrés mettait en ligne une pétition pour interdire aux parents de percer les oreilles de leur bébé. Le texte veut fixer un âge minimum légal pour ce faire. Marie Billon.
C'est de la maltraitance sur enfants. Le ton est donné dès les premiers mots de la pétition qui poursuit « Percer ses oreilles ne sert aucun but si ça n'est celui de satisfaire la vanité des parents ». La diatribe est sans concession et beaucoup de ceux et celles qui ont apposé leur signature sont tout aussi convaincus. Frapper son enfant est interdit, alors comment transpercer son oreille avec une tige de métal n'est pas interdit, demande Claire M. Alors on ne sait pas combien de bébés ou d'enfants en bas âge ont leurs oreilles percées au Royaume-Uni, mais ça n'est apparemment pas le nombre qui a déclenché cette pétition, mais une émission de télévision « Blinging Up Baby » de l'expression « bling bling », un show dans lequel les mamans sont prêtes à tout pour que leur bébé sorte de l'ordinaire. Et dernièrement, les téléspectateurs ont été choqués de voir une mère percer l'oreille de sa fille de 4 mois. Mais beaucoup trouvent aussi tout cela complètement inutile, y compris sur le site de la pétition. La douleur n'est que passagère et la plupart des filles sont finalement contentes de ne pas avoir à se faire percer les oreilles à l'adolescence, disent certains. Et puis, surtout, c'est parfois une question de culture et de tradition, c'est le cas notamment dans les communautés indiennes. Et pour beaucoup d'autres, c'est aussi tout simplement un droit, et ils n'apprécient pas du tout l'idée que le gouvernement puisse décider du sort des lobes des oreilles de leurs enfants. La pétition, en tout cas, a rapidement atteint la barre des 25 000 signatures, lui permettant d'être transmise au ministère. Le décompte est aujourd'hui de plus de 40 000, et devant la popularité de la question, un député travailliste a décidé de prendre les choses en main. Il n'a pas encore dit s'il comptait déposer une proposition de loi, mais puisque le sujet n'est pas fondamental, bien qu'il divise beaucoup, il sondera certainement d'abord ses collègues parlementaires avant de faire quoi que ce soit.
Le Premier ministre Alexis Tsipras semble donc finalement d'accord pour accepter les conditions de renflouement des bailleurs internationaux de la Grèce afin d'obtenir un nouveau plan d'aide. Il y pose lui-même quelques conditions, notamment sur le dossier brûlant des retraites. Alexis Tsipras demande un délai pour supprimer l'allocation de solidarité prévue pour les retraités les plus modestes, on l'appelle ECAS. En Grèce, le sujet est d'autant plus sensible que les pensions servent bien souvent à aider les plus jeunes. Reportage de Charlotte Stivenard, réalisé quelques heures avant l'annonce du Premier ministre.
Dans ce petit café du centre-ville d'Athènes, les parties d'échecs se succèdent sans fin. Dans la salle, beaucoup de retraités. Athinodoros Stavridis, lui, fait ses mots croisés. Cet homme de 75 ans vient ici tous les jours. De sa poche, il sort une feuille de journal pliée en quatre. Dessus, il y a griffonné quelques chiffres. C'est son budget du mois.
Le 26, je dois payer 15 euros pour acheter mon abonnement pour les transports en commun dans Athènes. Je dois payer mon loyer, c'est 250 euros. Et ensuite, je dois aller chez mon comptable pour les impôts. Lui, il va recevoir 30 euros. Ensuite, je dois encore payer 270 euros pour les impôts, comme chaque année. Le gouvernement précédent m'a fait payer 1000 euros. Une autre année, ils m'ont imposé 950 euros.
Chaque mois, l'État lui verse 900 euros. 200 de moins qu'avant la crise. Athinodoros Stavridis ne se plaint pas. Il estime qu'il vit correctement, mais aussitôt il ajoute...
Une grande partie va à mon fils. Comme je vous ai dit, il n'est pas capable de travailler.
Son fils est malade, mais ce retraité n'est pas le seul à assurer le soutien financier de sa famille. Avec une personne sur quatre au chômage en Grèce, beaucoup dépendent des retraites versées par l'État. Selon une étude de la Confédération des professionnels, des artisans et des commerçants, le revenu principal d'un peu plus de la moitié des ménages grecs vient des retraites, un phénomène qui a augmenté depuis la crise. Alors forcément, quand les partenaires européens de la Grèce parlent de couper à nouveau dans les retraites, ça ne passe pas. Pour les autres Européens, le système des retraites grecques est trop généreux. Mais selon des chiffres de l'OCDE de 2013, la retraite moyenne annuelle était d'un peu plus de 20 000 euros par an en Grèce, contre plus de 32 000 pour la moyenne des pays membres.
Bonjour. Merci.
On a un grand
Ça, c'est le sommet européen de nouveau aujourd'hui.
Ouais.
C'est toujours de l'histoire.
Konstantinos Voulgaris est parti à la retraite il y a 13 ans. Il fait partie de ceux qui, en Grèce, ont toujours une pension correcte.
Moi, j'avais une retraite d'à peu près 2000 euros. J'étais commandant de bord chez l'ancienne compagnie aérienne grecque, la compagnie nationale donc. Et j'ai vu dans cette période ma pension diminuer de à peu près 2000 à 1300 et quelques maintenant.
Une fois à la retraite, les Grecs perçoivent en moyenne une plus grosse proportion de leur salaire que les Européens. Mais là aussi, cela cache des disparités importantes. Les plus aisés, comme ce pilote, ont beaucoup cotisé et touchent aujourd'hui beaucoup moins que leur salaire. Les retraités qui ont les revenus les plus bas, eux, ont moins cotisé et touchent plus en proportion. Les plus riches ont donc payé pour les plus pauvres. Dans les propositions de réforme des créanciers, on trouve la suppression de l'ECAS, une allocation de 30 à 230 euros par mois. Elle est versée aux retraités qui touchent au maximum 760 euros. Par mois, les retraités modestes donc. Cela doit permettre de rééquilibrer le système, mais c'est une décision critiquée dans un pays où les revenus des pensions remplacent le filet social défaillant. L'autre phénomène auquel s'attaquent les créanciers, c'est celui des pré-retraites. Elles ont été largement utilisées pendant la crise pour éviter les licenciements et les mises en disponibilité. C'est le cas de la compagne de Kostas Voulgaris, Barbara Gripsi. Elle était contrôleuse aérienne, elle a quitté son travail à l'âge de 56 ans.
J'avais le droit de partir. Et maintenant, ce que je prends, c'est 940 euros. Si je restais à mon travail, je pouvais partir dans 3 ans avec full pension.
En Grèce, les pré-retraites concernent majoritairement les femmes. Dans leur proposition, les créanciers proposent de rendre ce choix moins facile. L'objectif, faire travailler les gens le plus longtemps possible, alors que la population grecque est une des plus âgées d'Europe. Une course contre la montre qui pourrait ne jamais être gagnée si la crise persiste. Avec un jeune sur deux au chômage, on voit mal cette tranche d'âge cotisée pour les plus anciens. À cela s'ajoute un système fragilisé par une décision du gouvernement et des partenaires européens en 2012. Les caisses de retraite et de sécurité sociale ont perdu plus de 3 milliards d'euros lors de l'effacement d'une partie de la dette grecque. Aujourd'hui, alors que le produit intérieur brut s'est écroulé, les retraites représentent plus de 16% de ce PIB contre 12% de moyenne européenne. Le moment est donc malvenu de réformer, pour le chercheur Stamatis Vardaros, de la Confédération hellénique des professionnels, artisans et commerçants.
Le système auquel les créditeurs pensent a besoin de contributions sociales, de financements importants, pour avoir un niveau de retraite équivalent. Si ce n'est pas possible, on a donc un niveau de retraite très bas. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le moment de réformer, spécialement dans une société comme celle-ci, qui, après 5 ans de récession, se trouve dans la situation dans laquelle elle se trouve.
Une réforme encore compliquée par une récente décision de justice. Une cour a déclaré inconstitutionnelle les coupes opérées dans les retraites en 2012, estimant aussi qu'elles violaient la Convention européenne des droits de l'homme.
. 450 000 demandeurs d'asile sont attendus cette année en Allemagne. Bien difficile dans ces conditions pour l'État de faire face à cet afflux. Résultat, dans certaines régions, l'hébergement des réfugiés est délégué à des entreprises privées. Payées avec de l'argent public, ces entreprises sont chargées d'aménager des centres d'hébergement et d'en gérer le fonctionnement ou le dysfonctionnement. Car ces prestataires de services sont souvent accusés de privilégier les profits au détriment de l'hygiène et d'un accueil décent des réfugiés. Le reportage de Déborah Berlioz.
Nous sommes dans le quartier de Moabit, au nord de Berlin, et c'est l'heure de pointe devant les locaux de Nouveau Voisinage. C'est le nom d'une initiative citoyenne en faveur des réfugiés. Ferras vient ici toutes les semaines pour apprendre l'allemand. Il y a quelques mois, ce jeune Syrien habitait avec sa mère et sa sœur juste à côté dans un centre d'hébergement pour réfugiés.
Nous avons habité dans une pièce avec une autre famille. Il n'y avait qu'une cloison en bois qui nous séparait et qui n'allait pas jusqu'au plafond. Et nous étions environ 50 personnes sur un étage et tous devaient utiliser un seul WC. Et il y avait toujours de mauvaises odeurs.
Installé dans une ancienne école en 2013, ce centre accueillait près de 300 personnes. Il était géré par une entreprise privée, la Gerzo. C'est d'ailleurs dans ces locaux que Marina a lancé Nouveau Voisinage. Mais la jeune femme ne tarit pas de critiques envers l'établissement.
Le plus gros problème, c'est qu'il reniait sur le personnel. Il y avait trop peu d'employés, ils n'étaient pas assez expérimentés ou qualifiés. La direction du centre était assurée par une jeune femme qui avait à peine terminé ses études. Elle était inexpérimentée et complètement dépassée par la situation.
Fin 2013, Marina a donc tenté de discuter avec la direction du centre, sans succès.
Nous avons donc organisé une manifestation. La presse est venue et ses problèmes ont été enfin mis sur la place publique. Mais suite à cela, notre mouvement a été mis à la porte du centre.
L'établissement a fermé en mai dernier. Toutefois, la Gierzo gère encore 5 centres d'hébergement dans Berlin. Mais Swada Dolovac assure que le centre de Moabit était un cas exceptionnel. Elle est employée comme travailleuse sociale pour cette société.
Ce centre était censé être un hébergement d'urgence, une solution temporaire. Il ne devait rester ouvert que 3 mois. Personne n'avait imaginé que cela durerait plus de 2 ans. Si nous avions eu plus de financement, nous nous aurions fait des travaux. Mais l'administration nous répétait toujours « Non, vous allez fermer, vous allez fermer ».
Dans un autre établissement de la Gierzo, tout semble en effet propre et aux normes. Toutefois, ce n'est pas la seule affaire touchant l'entreprise berlinoise. Elle avait notamment embauché moins de travailleurs sociaux que ne le prévoyait son contrat avec l'administration. Elle a donc dû rembourser des milliers d'euros. Et ce n'est pas non plus le seul scandale impliquant des gérants privés en Allemagne. Conditions d'hygiène déplorables ou encore maltraitance des réfugiés sont souvent dénoncées dans les médias. Cependant, selon le politologue Kai Wendel, ces incidents se déroulent aussi dans les établissements publics. L'Allemagne s'est en effet crue protégée par le règlement de Dublin, qui veut que les réfugiés demandent l'asile dans le pays où ils ont mis pied en Europe.
Avec le règlement de Dublin, l'Allemagne pensait que très peu de réfugiés viendraient sur son sol. Ils ont donc réduit les capacités d'accueil. Mais quand ce système de Dublin s'est effondré ces dernières années, ils ont été débordés d'un seul coup. Et donc, maintenant, il s'agit avant tout de vite mettre un toit au-dessus de la tête des réfugiés, peu importe dans quelles conditions.
À Berlin, 20 nouveaux centres d'hébergement ont dû ouvrir leurs portes depuis l'année dernière. Mais selon Kai Wendel, les scandales sont avant tout causés par un manque de régulation et de contrôle de la part de l'État. L'hébergement des réfugiés est en effet de la responsabilité des lenders. Et seuls 9 lenders sur 16 ont mis en place des normes à respecter pour les centres. Kai Wendel souhaite des règles plus contraignantes.
Si c'est un centre d'hébergement collectif, il ne doit pas dépasser les 50 places et comporter des appartements individuels. La location doit permettre l'accès aux infrastructures sociales. Il faut assez de travailleurs sociaux. Parfois, il n'y en a qu'un pour 120 personnes.
Michael Elias, lui, se targue déjà d'offrir plus que les normes imposées. Cet entrepreneur berlinois a plusieurs projets de centres d'hébergement qui n'attendent plus que l'autorisation finale du Sénat. Il prévoit notamment plus d'espaces habitables et de douches qu'il n'y est légalement contraint.
Nous prévoyons également des bâtiments supplémentaires afin d'offrir des espaces pour du conseil ou des événements. Ils ne seront pas uniquement à notre disposition, mais aussi disponibles pour le centre germano-arabe du quartier, par exemple, ou pour d'autres associations. Nous nous voyons comme un maillon dans la chaîne de l'intégration.
Reste à voir ce que cela donnera en réalité. D'autres lenders allemands ont cependant décidé de ne pas recourir à des entrepreneurs privés. À Hambourg, par exemple, l'hébergement des réfugiés est entièrement géré par une entreprise de droit public.
I am very pleased to meet you.
Milo mie, davas vidi.
Thank you.
Voilà.
Les jeunes sont...
La chronique.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
En ces temps de canicule française, une chronique un peu caliente, car vous nous parlez aujourd'hui de sexe 2.0, ou plutôt des nouveaux usages induits par Internet et l'utilisation de smartphones dans la vie sentimentale et sexuelle des jeunes Européens.
Exactement, c'est une application qui a fait le buzz ces derniers jours. Elle vous propose de larguer à votre place votre petite amie en envoyant un message préenregistré du type « ce n'est pas toi, c'est moi » ou plus poétique « tu mérites de réaliser ton rêve, maintenant sois libre et va attraper ce joli papillon ». Désolé, tu es largué. L'appli s'appelle Binder, c'est un jeu de mots avec bin, poubelle en anglais, et Tinder, la célèbre application de rencontre, plébiscitée par les jeunes du troisième millénaire qui ont toujours leur smartphone, leur téléphone intelligent greffé à la main.
Rompre en envoyant un SMS tout calibré, ça manque un petit peu d'élégance, non?
Ah oui, imaginez-vous, il y a quelques années, la rupture par SMS était le summum de l'humiliation amoureuse. On a donc réussi en 2015 à faire mieux. En réalité, il suffit de regarder la vidéo de présentation de l'appli pour comprendre que cela est surtout une bonne blague qui sera probablement plus utilisée au second degré qu'au premier. Reste que l'arrivée du smartphone dans nos vies modifie forcément notre approche de la communication amoureuse, a fortiori chez les jeunes qui n'ont rien connu d'autre.
Alors une autre appli qui a fait scandale ces derniers temps, c'est Gossip, spécialisée dans l'art de répandre des rumeurs.
Oui, la jeune appli qui signifie potin a d'ailleurs été créée par une jeune française de 25 ans. Elle fait un carton dans les cours de récré. En quelques caractères, avec ou sans photo, vous pouvez anonymement envoyer un message à tout votre répertoire en médisant sur l'un de vos camarades. Au départ, l'appli se revendique bon enfant et se veut le relais du bon vieux ragot. Mais au final, des dizaines de jeunes ont été victimes de cyberharcèlement et les pouvoirs publics sont même intervenus.
Alors, allons un petit peu plus loin maintenant. Sexting, sexto, sex, selfie. Un sondage IFOP proposé en 2014 d'analyser les pratiques des jeunes européens en la matière.
Et de les comparer à celles de leurs camarades américains. Résultat, le vieux continent garde ses distances avec certaines pratiques parfois ravageuses, comme le sexting, par exemple. Le sexting, c'est le fait d'envoyer des photos, des parties intimes de son corps, dénudées à ses conquêtes. Aux États-Unis, 40% des moins de 35 ans se sont déjà adonnés à ces pratiques, beaucoup moins en Europe, environ 10%. Les jeunes européens sont donc beaucoup plus préoccupés par la possibilité que ces photos finissent sur le net sans leur accord.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le revenge porn, le porno revanchard.
Oui, cette fois-ci, l'idée, c'est de poster les vidéos ou les photos de votre bien-aimé, ou plutôt de votre ex-bien-aimé, sans son accord, dans un esprit malveillant et donc revanchard. Cette vilaine démarche n'a été pratiquée en 2014 que par 1% des hommes en Allemagne, car c'est les hommes en général, Laurent, 4% en France et en Espagne, 6% en Italie, selon le sondage.
Alors, il y a un domaine, par contre, où les Européens investissent beaucoup, c'est les sextos.
Oui, alors les sextos, rien à voir avec le sexting. Cette fois-ci, c'est le texto rédigé à caractère sexuel. Les deux tiers des moins de 35 ans interrogés lors du sondage IFOP sur le sexe 2.0 affirment avoir déjà envoyé des sextos et ils ont de qui tenir. Voici ce qu'écrivait Héloïse à son amant de philosophe Abélard au XIIe siècle. Jusque pendant la messe, où la prière doit être purifiée, les fantasmes innommables s'emparent presque de mon âme malheureuse, au point que mes pensées vont plutôt à cette turpitude qu'à la prière. Bon, pour Twitter, il faudra imaginer quelques abréviations. J'ai compté 194 caractères, c'est 34 de trop.
Comme quoi, on n'a pas toujours le temps de faire court. Merci Evmino, j'ajoute qu'à partir de demain, nous vous retrouvons pratiquement chaque jour, mais dans un autre registre, dans Accent d'Europe, pour une quinzaine de jours. Bienvenue à vous.
Merci.
Un lieu qui surprend, voire qui détonne au Kosovo, l'hôtel Gratsanitsa, exemplaire à bien des égards, Laurent Gélin.
C'est en 1999 qu'Andreas Wormser pose ses valises au Kosovo pour travailler pour un programme de coopération suisse. Quelques années plus tard, en 2006, il se lance avec deux amis roms dans un pari un peu fou, créer un hôtel dans une enclave serbe à deux pas du monastère de Gratsanitsa et à quelques minutes de voiture de l'agitation de Pristina.
L'idée était de faire un hôtel un peu spécial. On utilise la géothermie pour le chauffage et la climatisation. On a une excellente isolation, on sépare les déchets, etc. Mais c'est aussi le seul hôtel multiethnique au Kosovo, c'est peut-être le seul hôtel au monde qui est dirigé en partie par des Romains.
Dessiné par l'architecte suisse d'origine kosovare, Bujarne Dresai, l'hôtel Gratsanitsa donne sur des collines verdoyantes où se trouve encore enfouie la ville antique d'Ulpiana que les archéologues du Kosovo commencent tout juste à fouiller. Les lignes épurées des bâtiments blancs qui abritent les chambres se découpent dans le ciel bleu du Kosovo. On pourrait se croire en Toscane, mais nous sommes dans un pays encore meurtri par les fantômes de la guerre de 1999. Qu'importe, à l'hôtel Gratsanitsa, on parle toutes les langues de la région pour le bonheur des enfants roms du quartier qui viennent se baigner dans la piscine les jours de grande chaleur.
Ainsi s'achève Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve demain dès 17h40, temps universel, avec Eve Minot au micro.